Je voudrais, à travers quelques illustrations, aborder un petit peu un sujet très important. Le frère a dit que tous, on est tous jeunes, c'est vrai, on est tous jeunes. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est que tous, on a quelque chose à faire pour le service de Dieu. Je fais ça parce que, au début, quand je disais Amen, il y en avait un qui répondait. Voilà, j'aime bien quand ça, l'assemblée répond. On a tous quelque chose à faire pour Dieu. Et tous, que vous soyez jeune chrétien, que vous soyez un chrétien avec plusieurs années, que vous soyez jeune dans l'âge, un jeune, un ado, ou que vous ayez peut-être 70, 80, ah pardon, je traduis en suisse, 70, 80, il faut que je traduis, hein. Mais j'ai l'habitude de dire 70, 80, ben tant pis, vous acceptez 70, 80. On a tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, pas ici, rassurez-vous, dans d'autres églises, eh ben, on se laisse prendre par la vie. Et on n'est pas utilisé comme le Seigneur voudrait nous utiliser. Parce que ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que chacun d'entre vous, ce matin, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que j'ai dans les mains ? C'est un gland de chêne. Ouais, bah d'accord Michel, c'est un gland de chêne, ok. C'est rien du tout. Il tient dans ma main, je peux l'écraser avec mon talon, il n'y a aucun problème. Mais ce gland de chêne, si je le laisse tomber dans la terre, qu'il meure à lui-même et qu'il commence à donner du fruit, il va devenir un arbre qui sera épais, très haut, dont le feuillage s'étendra et couvrira vraiment une grande partie de la terre, où les animaux viendront se réfugier pour trouver la fraîcheur par rapport au soleil, etc., etc. Et ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce matin, c'est que chacun d'entre vous, vous êtes un gland de chêne. Mais on ne réalise pas cela. On ne réalise pas que le Seigneur nous a choisis, non pas pour chauffer les chaises, laissez faire le chauffage central pour ça. Mais le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions être ses témoins là où nous sommes. C'est comme, vous voyez, ce sel-là que j'ai là sur la... Enfin, ce n'est pas du sel blanc, mais c'est du sel du piment, hein, tu m'as dit. Hein. Peu importe. On est le sel de la terre. Et le Seigneur nous prend et il nous sale, il nous met là où nous sommes, dans notre travail, dans notre famille, dans notre foyer, là où on vit de tous les jours, pour pouvoir apporter cette saveur de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que parfois, ce que nous sommes en tant que sel reste sur un étage. Et vous savez très bien que quand le sel reste dans sa boîte et n'est pas utilisé, il devient inutilisable. Il se cristallise, il devient vraiment quelque chose comme une boule dure et il est inutilisable. Mais il est capable toujours de saler quand il accepte d'être pris par la main du cuisinier et d'être mis sur les plats pour donner de la saveur. Et ce que je voudrais vraiment me dire à moi et nous dire à tous, c'est que nous avons un potentiel extraordinaire dans vos vies, dans ma vie. Et ce potentiel extraordinaire, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Mais le problème, c'est que parfois, en tant que chrétiens, nous vivons une petite vie chrétienne. Nous voyons un petit Dieu. Nous ne pensons pas que Dieu est capable de changer, de guérir, de transformer. Mais ce Jésus que je vous prêche, c'est un Jésus qui change les vies. C'est un Jésus qui guérit. C'est un Jésus qui libère les passions et qui nous donne vraiment de vivre en tant que chrétiens. Vous savez, le monde, je le disais hier à la formation, le monde en a assez des religieux. Le monde en a assez des légalistes. Le monde en a assez des discours qui veulent rien dire, on comprend rien ce qu'ils veulent dire. Les gens veulent voir du concret. Et nous sommes, en tant que chrétiens, des exemples vivants de ce que comment de ce qu'est un Dieu concret. Il a changé vos vies, oui ou non? Donc vous avez tous expérimenté quelque chose de la part du Seigneur. Alors partagez-le. Ben oui. Partagez-le. Ah, un amen. Partagez-le. C'est mieux. Nous sommes ces témoins. Et là où nous sommes, nous devons partager le Seigneur. Du reste, le Seigneur nous donne deux commandements avant de monter au ciel. Il nous demande tout simplement dans Actes 1:8, « Soyez mes témoins et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Et dans Matthieu 28:19, il nous dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples. » C'est les deux commandements que le Seigneur nous dit, d'être un témoin et de faire des disciples. Mais jamais le Seigneur nous dit de convertir les gens. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous dis ça pourquoi, et je reprends un petit peu ce que j'ai dit à la formation. Pendant longtemps, j'étais frustré. Pendant longtemps de ma vie chrétienne, je ne comprenais pas. Je parlais de Dieu à des personnes, il n'y avait rien qui se changeait. Je me disais, mais attends là, Michel, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ou alors, tu es un mauvais chrétien, tu n'as rien compris à l'évangile, ou vraiment, tout ça, c'est du pipeau. Lorsque j'ai réalisé, frères et sœurs, que mon rôle n'est pas de convertir les gens, mais d'être un témoin. C'est-à-dire de dire tout simplement ce que Jésus a fait. Et évangéliser, c'est ça. Le mot évangélisation, parfois, fait un petit peu pas peur, mais c'est un spécialiste qui peut s'occuper de ça. Non, chacun d'entre nous est un évangéliste, parce que chacun d'entre nous est un témoin. Et vous êtes un témoin là où vous êtes, dans votre boulot. Même si votre chef est affreux, vous êtes un témoin. Je travaille en réanimation. Combien de fois Dieu m'a donné en réanimation, alors que vous avez sur des lits d'hôpitaux des patients chirurgie cardiaque, donc des gens qui sortent du bloc opératoire, qui sont un petit peu limite au niveau des constantes, etc., qui sont en borderline, comme on dit. Combien de fois, et encore la semaine dernière, Dieu m'a donné des occasions de pouvoir témoigner que Jésus est vivant. Il n'y a pas d'endroit impossible. Si tu es placé dans cette entreprise, si tu es placé dans ce boulot, si tu es placé ici, c'est parce que le Seigneur a mis ce sel ici pour que tu portes du fruit. Vous me direz, mais écoute Michel, ce que tu dis c'est bien, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, dans ma vie, j'ai tellement de problèmes que témoigner, c'est pas mon truc, hein, tu sais, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Témoigner, j'ai tellement de problèmes, les factures à la fin du mois, j'ai des problèmes dans ma famille avec mes gamins, j'ai des problèmes au travail, je suis assaillé de partout. Et tu me demandes malgré tout d'être un témoin de Jésus. Non, je veux pas être un hypocrite. Je préfère me taire. Ça, c'est la mauvaise solution. Parce que si tu veux témoigner de Jésus, tu attends d'être au top niveau parfait, tu témoigneras jamais de Jésus. Jamais. Regardez Paul. Au mieux, attends, tu prends un calibre, Paul. Oui, d'accord, je prends peut-être un calibre, Paul. Mais vous savez, Paul, c'était un homme comme vous et moi. On s'imagine Paul, vraiment un homme de Dieu, tout ça. Mais à un moment donné, il a eu, pardonnez-moi l'expression, une sacrée engueulade avec un de ses copains, au point qu'ils se sont séparés. L'un est parti à droite, l'un pas. La Bible nous dit, ils eurent entre eux une vive discussion. Donc ça a dû chauffer. Tout Paul qu'il était, c'était un être humain. Donc si nous attendons d'être parfaits pour pouvoir être capables de parler de Jésus, on se trompe. Dieu met devant nous des occasions, saisissons-les. Soyons ce sel de la terre, soyons ce gland de chêne. Dieu t'a choisi pour quelque chose de précis, mon frère, ma sœur. Et ça ne dépend pas de tes capacités intellectuelles, de l'importance de ton portefeuille. Ça ne dépend pas de ta situation. Dieu t'a choisi, point barre. Il t'a choisi pour être un témoin. Il t'a choisi pour des buts dans ta vie. Et mon désir ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions saisir cette vérité. Seigneur, tu as préparé quelque chose pour moi. Je ne suis pas un zéro. Je suis un héros. Je suis un gland de chêne. Dis-le à ton voisin. Sais-tu que tu es une semence de vie? Dis-lui, peut-être il n'a pas bien compris. Dis-lui là maintenant. Sais-tu que tu es une semence de vie? Ben ouais. Sais-tu que tu es une semence de vie? Alors, lorsque nous réalisons que Dieu m'a choisi, et quand nous réalisons que Dieu me plante à un endroit très précis pour que je puisse grandir, devenir un arbre fort, épais, avec un feuillage vraiment énorme, dès que j'ai pris cette décision, et peut-être que ce matin vous allez dire, « Ok Seigneur, je veux prendre cette décision, aussitôt. » Vous entendez une petite voix qui vient dans votre tête. « Non mais, t'es sérieux? T'as vu ta vie chrétienne? Hier, t'as péché, hein? Tu veux que je te rappelle? N'écoute pas ce français, il est complètement fanatique. N'écoute pas ce français, non. N'écoute pas ce gars. Regarde ta vie, mon pauvre. Tu galères. Et tu penses que Dieu s'intéresse à toi? Reste tranquille, un chrétien du dimanche, reste tranquille. Chauffe les bancs de l'église, reste tranquille. T'as pas de problème, reste comme tu es. Ne lève pas, laisse faire le pasteur, les anciens. Chut. On connaît cette voix. C'est le diable qui vient te dire pour essayer de démotiver. Et je me permets de vous lire, enfin, de vous raconter une petite illustration que j'ai trouvée dans le Top Chrétien. Une histoire qui est assez parlante. Voilà. On va y arriver. Allô, allô, allô. Alors, cette histoire, sinon ça fait rien. Je vais vous la dire par cœur parce que je la connais. Bon. C'est aux États-Unis, dans les années 1880 à peu près, il y avait un bandit de grand chemin qui terrorisait les diligences. Il dévalisait les diligences et son arme, c'était la réputation qui le précédait. Ce gars était assez grand, il était habillé tout de noir. Il avait une capuche noire et puis il avait un gros pistolet. Et cet homme, donc, quand une diligence arrivait, il sortait, il se mettait en travers de la route, menaçait les convoyeurs avec cette arme et ainsi il dévalisait la diligence, les personnes, etc. Et puis un jour, donc, cet homme a été blessé lors d'une attaque de diligence. Donc il s'est enfui et en s'enfuyant, il a laissé tomber par terre un mouchoir. Alors le convoyeur a ramassé ce mouchoir et il a trouvé, après il a donné à la police, et sur ce mouchoir il a trouvé le numéro d'une blanchisserie de la ville de San Francisco. Donc ils ont été dans cette blanchisserie. Ils ont vu le numéro, ils ont fait des recherches Et ils ont pu arrêter cet homme. Mais quand ils ont arrêté cet homme, habillé tout de noir, qui dévalisait depuis des années les diligences, ils ont été surpris. Parce que cet homme, c'était une personne âgée, un ancien instituteur, qui vivait dans une pension de famille. Et cette fameuse arme avec laquelle il terrorisait les voyageurs ne pouvait pas marcher parce que le percuteur était cassé. Et pourtant, avec cet habit tout noir et ce gros pistolet, il imprimait la terreur et il faisait en sorte qu'il a pu dévaliser, alors qu'en fait, il n'était rien. Et quand la police l'a arrêté, ils se sont rendus compte que c'était un monsieur qui parlait bien, qui s'exprimait bien, qui ne disait pas de jurons. Incroyable. Le nom de cette personne, alors on l'appelait Black Bart, mais le nom de cette personne, si vous l'allez tout à l'heure sur Internet, vous tapez Charles Coles, C-O-2-L-E-S, Charles Coles, Black Bart. Vous verrez, il y a la photo de ce gars, c'est vraiment un bon petit papy, bien sympathique, en photo, qui a dévalisé pendant de nombreuses années des diligences, tout simplement parce qu'il était habillé tout en noir avec un gros pistolet qui ne pouvait pas marcher parce que le percuteur était cassé. Il a dévalisé de nombreuses diligences. Il a réussi tout cela par l'intimidation. Et Satan essaiera par tous les moyens de vous bloquer en vous intimidant, en vous disant « reste comme tu es ». Tu es un chrétien classique, tu vas le dimanche, ça suffit, reste comme tu es. N'écoute pas ce français, reste comme tu es. Et puis si tu te lèves, tu vas avoir des difficultés. Non, reste comme tu es. Il va essayer de te paralyser, de t'intimider. Et s'il arrive à te paralyser, d'intimider, il a gagné. S'il arrive à mettre en toi la peur, de dire « mais si je me lève, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il va gagner. Et le résultat, c'est que tu vas tourner dans ta vie sans prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Et l'exemple le plus parfait que l'on a, c'est les Juifs, quand Israël, quand Dieu lui demande de franchir pour prendre possession du pays de Canaan. Vous connaissez l'histoire, les espions reviennent. « Oh, mais il y a des géants de la race d'Anak, on n'est rien devant eux, on va se faire battre, etc. » Résultat, ils retournent dans le désert. Et pendant 40 années, ils tournent en rond. Parce qu'ils ont eu peur, ils ne se sont pas rappelés les miracles extraordinaires que Dieu avait fait en ouvrant la mer Rouge. Résultat, ils ont eu 40 années de désert. Alors que s'ils avaient obéi à Dieu, ils auraient remporté la victoire. Mon frère, ma sœur, ce matin, n'écoute pas Satan qui te dit « reste tranquille, c'est un menteur ». Et la Bible dit que Satan, c'est le père du mensonge. Ne l'écoute pas, mais lève-toi et avance, alléluia. Avance. Le meilleur est devant toi. N'écoute pas l'ennemi. Il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond dans leur vie, ça ne va pas. Alors ils vont vers le pasteur. « Oh pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi ?»« Ah, ça va mieux. » Et puis après, ça revient. « Oh, il y a une grande convention, il y a un grand homme de Dieu. » Alors on court, on court, on court. « Oh, je vais prier pour moi, ça va aller mieux. » Et puis après, comme un ballon de baudruche, jusqu'au prochain gonflage. Mais arrête d'être gonflé d'air, sois gonflé d'hélium et tu t'élèveras, alléluia! Marche avec Dieu, lève-toi ce matin. Vous êtes assez nombreux dans cette église pour bouleverser la ville de Bienne. Il n'y a pas besoin de centaines de personnes. Quand vous voyez avec 12 disciples, ils ont révolutionné l'Empire romain en moins d'un siècle. Vous me dites, Michel, il faut attendre 100 ans pour voir le réveil à Bienne. Non! Mais si déjà, vous tous, ce matin, vous décidez de vous lever et d'avancer, vous décidez enfin d'être planté dans la terre pour produire ce chêne, pour produire ce fruit, Vous allez voir ce qui va se passer. On se donne rendez-vous dans un an. Vous allez voir, vous ne serez plus ici, vous serez dans une autre salle parce que cette salle sera trop petite. Mais oui ! Vous savez, Dieu aime les gens. Et Dieu aime les gens de bien. Et il y a beaucoup de gens qui, peut-être malgré l'opulence qu'ils ont, la richesse qu'ils ont, sont malheureux. L'argent ne fait pas tout. Je ne sais pas si en France, peut-être vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Jean-Claude Delarue en France, ça vous dit quelque chose. C'était un animateur de télévision très connu. Jean-Luc, hein, Jean-Luc Delarue, merci. Jean-Luc Delarue, c'est un animateur de télévision très connu, jeune, présentait bien. On le surnommait le gendre idéal. Et vraiment, tout ce qu'il faisait comme émission de télé, ça marchait, ça, c'était la réussite. Jusqu'au jour où il a été pris en flagrant délit de cocaïne, c'était un consommateur très fort de cocaïne, au point qu'il a été obligé d'arrêter ses émissions et de se faire soigner. Tout ce que vous avez comme... Et combien de gens dans cette ville de Bienne sont comme ça ? Bien habillés, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais à l'intérieur, c'est un vrai désastre. Et nous sommes les seuls à pouvoir leur dire que Jésus est capable de délivrer, de sauver. Mes frères et sœurs, est-ce que nous réalisons ce matin, quel que soit votre âge, que Jésus, vous êtes capable d'apporter cette bonne nouvelle ? Oh ! Vous êtes capable d'apporter cette bonne nouvelle. Témoigner doit être notre vie personnelle. Ah merci, super. Ça fait du bien, merci. Témoigner doit être notre manière de vivre, même si ce n'est pas facile. Je vous le dis en tant que physiothérapeute, des fois au boulot, ce n'est pas évident. Quand on s'occupe de patients qui sont limites, quand on s'occupe d'enfants qui sont opérés du cœur, des cardiopathies congénitales et qu'on voit un enfant qui malheureusement vient à décéder et que les parents sont là, c'est pas facile. C'est pas facile pour l'équipe soignante. C'est pas facile des fois dans ce milieu de pouvoir parler de Dieu, mais je peux vous assurer que le matin quand je vais travailler, je demande toujours au Seigneur, Seigneur donne-moi des occasions, et quand les occasions se présentera, je les saisirai, et Dieu me les donne toujours, alléluia! Même le pire endroit de la terre, là où il y a un chrétien, il y a de l'espoir. Mais le voulons-nous ?
Oui.
Ça, c'est un oui. Le voulons-nous ?
Oui.
Ben, c'est bon, ça. Ben, alors, faites-le.
Amen.
Ben oui, faites-le. Parce que je crois que Dieu a des bons plans pour cette ville de Bienne. Et vous savez, Ne soyez pas bloqués par les petits commencements. Avancez. Avancez. Je le disais hier, vous savez, dans la nature, la croissance des plantes est différente en fonction des espèces. Je disais hier, le bambou peut pousser d'un mètre en une nuit. Je n'ai jamais vu, mais paraît-il que c'est vrai qu'un bambou peut pousser d'un mètre en une nuit. Alors que le bonsaï peut pousser de quelques centimètres sur plusieurs mois. Mais l'un et l'autre poussent, l'un et l'autre grandissent. Semez l'évangile. Qui sait si la personne à qui vous venez de parler du Seigneur, le Seigneur ne va pas l'utiliser pour devenir un Paul, pour devenir un Pierre, pour devenir un évangéliste, un pasteur. Qui sait si le Seigneur ne va pas utiliser cette personne pour un ministère parmi les enfants ou autre ? Combien de gens qui étaient complètement, complètement détruits par la vie, détruits par la société, qu'on n'aurait pas pu parier un seul franc suisse sur eux ? Le jour où ils ont reçu Jésus-Christ, leur vie a été changée. Leur vie a été changée. Je crois que vous savez que Dieu nous a choisis, nous a sauvés pour un but. Allez-y, soyez des témoins. Et vous dites, mais Michel, des fois il y a des difficultés, c'est vrai, je ne vous mens pas. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On a des hauts et des bas, absolument. Mais le Seigneur nous a fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vais vous partager mon témoignage. Je l'ai déjà partagé aux jeunes vendredi soir. Mais je vais vous le partager parce que pour vous montrer que Dieu est toujours le même, il ne change pas. Il est toujours présent et il nous conduit. Et même peut-être si ce matin quelqu'un est complètement... Le Seigneur est avec toi et veut te renouveler. Je suis fils unique. Mon père était médecin, ma mère travaillait dans une pharmacie. Mon père était athée, ma mère était croyante. Donc j'ai été élevé dans une religion. Mais très rapidement, vous savez, vers 15-16 ans, j'ai tout envoyé balader du nom. Après tout, Dieu, qu'il existe ou pas, ce n'est pas ça le plus important. J'ai perdu ma mère assez tôt, et donc il ne me restait plus que mon père et moi. Et donc vous pensez bien qu'entre un papa et un fils, il y avait une relation très forte. Donc ma tante, professeure d'anglais en France, sortait d'un divorce, elle était complètement cassée. Et donc pour se changer les idées, elle décide d'aller en Angleterre pour enseigner l'anglais et se changer un peu les idées. Donc elle part en Angleterre, et donc... Lors des vacances, comme ma tante était en Angleterre, ben j'en ai profité pour aller. Je ne connaissais pas l'Angleterre, donc j'étais allé voir ma tante. Et quand je suis arrivé, eh bien j'ai vu ma tante qui était vraiment transformée, qui était joyeuse. Et puis en plus, elle n'avait plus de douleur, parce qu'en France, elle avait des sciatiques qui vraiment la gênaient dans son enseignement et qu'elle était obligée souvent de s'arrêter. Et là, je la vois bouger, plier, lever. Je me dis, bon, c'est bien ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Souriante, tout ça. Et au bout du deuxième jour, je lui pose la question, je dis, mais tata, il y a quelque chose qui va... Qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus la même comme j'avais connu avant. Et là, elle m'a dit comme ça, brute de coffre. Dans ma classe, j'ai un élève qui était un protestant évangélique. Il m'a parlé de Jésus, j'ai reçu Jésus dans ma vie, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a transformé. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ma pauvre tante, t'es tombé dans les témoins de Jéhovah ou dans une secte bizarroïde. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais j'ai vu la réalité. Et je l'ai accompagné dans une salle, dans une église. Je n'ai pas tout compris. C'était en anglais. Mon anglais à cette époque était un anglais scolaire. Donc, j'ai pas tout, niveau scolaire, je n'ai pas tout bien compris. Mais je sais que durant ce culte, j'étais touché par Dieu. Et je me suis converti. Donc, je suis revenu en France. Donc, je commence mes études de médecine, parce que je voulais faire médecin comme mon père. Donc, je suis en fac de médecine, je commence. Et puis voilà que très peu de temps, j'apprends que mon père est atteint d'un cancer du poumon. Je fréquentais une église, c'était une assemblée de Dieu à cette époque, dans la ville de Clermont-Ferrand. Et donc, moi, avec ma foi de jeune chrétien, puisque j'avais vu ma tante guérie, par le Seigneur d'une sciatique qui vraiment l'handicapait, je me disais, il n'y a pas de problème, tu vas agir. Et donc, un jour, j'étais donc en fac, il y a le doyen de la fac qui rentre, Monsieur Rivier, il dit, oui, c'est moi, rentrez vite chez vous. Alors, je rentre chez moi, et quand j'arrive, je vois de la famille devant, enfin, pas de la famille, je vois des amis. Et là, j'ai compris. En un instant, je venais de perdre mon père. En un instant, tout mon avenir s'écroulait. En un instant, je n'avais plus rien. Et là, immédiatement, pourquoi ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi ma mère ? Pourquoi mon père ? Pourquoi maintenant je me trouve seul dans la vie orphelin et que mon avenir est complètement détruit ? Dis-moi pourquoi ? Le soir même, j'étais dans ma chambre. Mon père reposait sur son lit de mort, dans la chambre à côté. Et je questionnais Dieu. J'étais assis, je questionnais Dieu. Je disais, mais Seigneur, mais pourquoi ? Alors ça s'est passé comme ça, c'est ce que je vous livre, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Une voix douce qui m'a dit, mon enfant, fais-moi la prière que Job a faite. Alors la prière que Job a faite, ben, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as ôté, que ton nom soit béni. J'ai fait cette prière machinalement. Et en un instant, je me suis retrouvé debout. Imaginez le paradoxe, frères et sœurs. Je me suis retrouvé debout, rempli d'une paix, d'une joie extraordinaire, alors que 30 secondes avant, j'étais par terre complètement brisé et je réalisais ce que Dieu me demandait. Ce n'était pas d'essayer de savoir le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi de la situation, mais de lui faire confiance parce qu'il allait m'utiliser. Et il l'a fait. J'ai dû arrêter mes études de médecine, j'ai fait des études de physiothérapeute parce que c'est beaucoup plus court. Mais je peux vous assurer, maintenant ça fait 42 ans que cette expérience m'est arrivée. Jamais Jésus m'a abandonné. Il m'a utilisé, même dans les moments les plus difficiles, même peut-être quand les fêtes de Noël ou de Pâques arrivaient, que j'étais dans ma chambre de cité universitaire, que je voyais tous les autres étudiants rentrer dans leur famille pour fêter Noël et que moi je restais seul dans ma chambre. Jamais la présence de Jésus était si profonde et si forte. C'est pour ça que je vous dis ce matin qu'avec Jésus-Christ, la vie vaut la peine d'être vécue. Alléluia! Et que Dieu vous appelle ce matin à vous lever. Il vous accompagnera dans vos difficultés, dans vos problèmes, parce qu'il a préparé pour vous. Et tout à l'heure, le frère l'a dit en citant ce passage de Jérémie, « Car je connais les projets de paix et de bonheur que j'ai préparés pour vous. » Pas des projets de malheur. Mais la question est, veux-tu te lever pour servir le Seigneur? Veux-tu t'engager ce matin? Dieu t'appelle à de belles choses. Et ça ne dépend pas de ta situation dans laquelle tu es. Dieu veut se révéler à toi. Peut-être parmi nous ce matin, il y en a qui ont été touchés par le Seigneur. Mais, comme le dit l'Évangile, les soucis de la vie, la séduction des richesses, ça a étouffé. Oui, oui. Tu sais que tout cela est vrai, mais tu n'as plus le ressort, tu n'as plus le punch. Ben, ce matin, le Seigneur veut te redonner ce punch. Il suffit simplement que tu acceptes qu'il se serve de toi. Et il va se servir de toi. Il va se servir de toi pour être un témoin là où tu es. Je le répète encore, mes frères et sœurs, les gens n'ont ras-le-bol des religieux. Je me répète, ils en ont ras-le-bol. Je ne sais pas en Suisse, mais en France, vous savez, il y a une profonde crise de foi. Les gens sont déçus, vous ne pouvez pas savoir comme les gens sont déçus de la religion. Avec toutes ces affaires de pédophilie qui partent à droite, à gauche, dans telle église, les gens en ont ras-le-bol. Quand on leur parle de Dieu, « Oh, mais écoutez, monsieur, ne me parlez pas de Dieu. Regardez ceux qui parlent de Dieu, regardez ce qu'ils remettent, ne parlez pas de Dieu. » Et je les comprends. Mais quand ils voient un chrétien qui marche avec son Dieu, un chrétien qui montre la couleur, un chrétien qui vit vraiment comme le Seigneur le dit, alors là, ils disent, c'est bizarre toi, t'es pas comme les autres, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Ben, je suis chrétien. Ah, mais chrétien, non, Jésus est mon sauveur. Et c'est ça qui transforme la société. C'est ça qui transforme la société. Je vais reciter ce que j'ai dit hier, vous voyez, je reprends un petit peu de certaines choses que je vous ai partagées hier. Je vais souvent en Inde. Pour de la mission à New Delhi, dans les bidonvilles de New Delhi. Et là, vous savez, il y a un pasteur qui a commencé une œuvre merveilleuse. Il a commencé cette œuvre il y a peut-être, disons une vingtaine d'années. Il s'est dit, bon, que faire ? je sais, je vais montrer ce que c'est qu'être chrétien. Donc il a démarré une école dans un bidonville de New Delhi. Il leur enseignait donc les cours classiques avec un enseignement chrétien et donnait aux enfants un repas chaque midi. Tout ça gratuit, bien sûr. Les parents hindous sont venus vers lui et disent « Mais pourquoi vous faites ça ?»« Parce que je suis chrétien et je vous aime. » Une église est née. Après, il s'est dit « Bah, ce serait bien de faire encore une deuxième école. » Deuxième église est née. Puis après, il a vu beaucoup d'enfants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été en Inde, mais quand vous allez en Inde et que vous n'allez pas dans les coins aseptisés du tourisme et que vous vivez avec l'habitant et que vous promeniez dans les rues de New Delhi ou de n'importe quelle grande ville d'Inde, culturellement, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est un choc. Vous voyez le gars avec la grosse voiture qui passe et puis un petit enfant de 4-5 ans, tout nu, tout sale. C'est comme ça, hein, c'est ton karma, c'est le mien, tu fais ce que tu veux, voilà. Les enfants sont abandonnés dans les rues, tout ça. Il a dit, je sais ce que je vais faire. Il a démarré un orphelinat. Une autre église est née. Puis après, il a vu des femmes qui étaient dans les rues, qui, plus ou moins, qui avaient été abusées, rejetées par leur mari. Ils se sont dit, je sais ce que je vais faire. Je vais créer une école de couture pour ces femmes. Comme ça, elles apprendront ce métier de couture et après pourront faire des vêtements pour pouvoir à leurs besoins. Et ça a marché. Et une église est née. Puis après, il a vu les besoins, parce qu'ici, ce n'est pas comme en France ou en Suisse. Vous êtes malade, vous avez le choix de médecin, là-bas, il n'y a rien. Il a dit, je vais créer un bus médical qui va de ville en village. Et résultat, ça marche. Vous savez combien d'églises il a maintenant ? 17 églises qui connaissent une croissance extraordinaire. Parce qu'à la base, il s'est dit, il faut que je vive en tant que chrétien. Eh bien, je peux vous assurer que si tous dans cette salle, nous désirons vraiment marcher avec la puissance du Saint-Esprit pour le Seigneur, avec nos faiblesses, avec nos défauts, eh bien, Dieu va utiliser cette église de Bienne pour transformer cette ville de Bienne. Alléluia ! Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Et ce n'est pas de l'utopie d'un Français qui vient de Lyon. C'est la réalité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent et comme Ésaïe disent, « Me voici, envoie-moi !» Et Dieu va t'utiliser. Mais est-ce que tu le veux ? Eh bien, prends cette décision maintenant. Ce n'est pas Benjamin qui va la prendre, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas moi. Mais c'est toi qui vas prendre cette décision. Parce que Dieu t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Il te fait cette promesse de t'accompagner tous les jours. Il te fait cette promesse d'être avec toi tous les jours. Et il veut t'utiliser pour que tu produises du fruit. Et si tu dis, mais Michel, ça fait tellement de temps que j'ai entendu parler de Dieu, mais le temps a passé. Écoutez cette histoire, puis je terminerai par ça. Écoutez cette histoire. Il n'y a pas tellement longtemps, en Égypte, bon, ils découvrent souvent, hein. Ils ont découvert un tombeau. Bon, vous me direz, des tombeaux en Égypte, ils en découvrent souvent, c'est vrai. Et vous savez que les Égyptiens s'enterraient avec des animaux empaillés, avec de la nourriture, etc. C'était dans leur croyance pour qu'après la mort, voilà, ça puisse les suivre. Et ils ont trouvé dans une jarre du blé. Donc ils ont pris ce blé, ils l'ont semé. Et ça a donné du... Ben oui, pas du riz, du blé, bien sûr. Ah. Mais le problème, c'est que ce blé avait été enfermé dans une jarre depuis 3000 ans. Et que 3000 ans dans une jarre n'avaient pas altéré le pouvoir de vie de ce grain de blé. C'est-à-dire que si peut-être parmi nous, quelqu'un a connu le Seigneur, mais depuis des années, il a laissé un petit peu tout ça, et te dit maintenant, c'est trop tard. Non, aujourd'hui encore, tu peux produire du fruit. Alléluia. Selon le passage de Joël, je vous redonnerai ce que la sauterelle, le grillon a dévoré. Je vous redonne ces choses ce matin, si seulement vous le désirez. Et Dieu veut bénir cette église de Bienne. Dieu veut bénir cette église de Bienne. Et ce n'est pas de l'utopie, je vous le dis du fond de mon cœur. Alors, parler plus, je pense que ça servirait à rien. Je pense qu'il est important. Si nous sommes vraiment sérieux avec Dieu, c'est de réaliser tout ce qui a été dit et de se dire, ok, ce matin, Seigneur, j'ai compris. Je veux me lever pour te servir. Et le Seigneur va voir cela dans ton cœur. Et il va t'utiliser. Comment, je n'en sais rien. Mais il va t'utiliser. Parce qu'il ne permettra jamais que quelqu'un se lève et le laisse sur le côté. Jamais. Alors, ce que je vous invite, c'est que pendant quelques instants, on puisse fermer nos yeux, incliner nos têtes. Et on va rester dans le silence du Seigneur. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus, puisse imprimer dans nos cœurs ces quelques paroles que je vous ai apportées. Seigneur Jésus, je te demande pardon de ce temps gaspillé. Je réalise ce matin que tu as des plans merveilleux pour ma vie. Alors ce matin, au nom de Jésus, je me lève. Je veux te servir. Prends toute ma vie. Je me soumets corps, âme, esprit à toi. Et utilise-moi dans cette ville de Bienne. Là où je suis, pour être un témoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'eau pour grandir. Relis la Bible, que la Bible devienne ta lecture. Elle a besoin de soleil. Le soleil, c'est la présence de Dieu. Puis elle a besoin de soins aussi. Cette église est un lieu de soins. Le jardinier s'occupe des plantes, il enlève les mauvaises herbes qui pourraient étouffer la plante. Engage-toi dans cette église et tu vas voir que tu vas grandir et tu vas devenir un arbre fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, tu vois toutes ces décisions qui ont été prises dans les cœurs ce matin. Je te les remets dans le nom puissant de Jésus. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume, Seigneur. Mais je te prie d'agir dans les vies, de transformer les vies, et que ceux et celles qui se sont levés, maintenant tu les utilises entre tes mains, au nom puissant de Jésus, pour qu'ils produisent du fruit. Et je te demande de bénir cette église de Bienne, maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen.